C'est parti. Il y a 6 pages comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est le sacrement de l'ordre et le dernier des 7 sacrements puisque nous arrivons en bout du parcours. Alors j'ai quand même fait des partis pris parce qu'il y a énormément de choses sur le sacrement de l'ordre, donc j'ai surtout souhaité creuser enfin la suite du pergiton, c'est pas sachant que je suis préparée. En fait, la problématique, c'est que à la fois, c'est un des sacrements où on a vraiment l'impression que Jésus a institué directement les prêtres, le jeudi saint et puis après sa résurrection. Donc, on a d'un côté une chose très évidente. Voilà, les prêtres font partie de ça. Et en même temps, on voit que ce n'est pas si simple que ça, qu'on a l'impression que le prêtre n'est pas... Pourquoi est-ce que le prêtre serait séparé et différent, puisque en tant que baptisé, on est aussi prêtre. En fait, c'est pour le prêtre, prophète et roi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce que le prêtre est ? Et c'est vrai que depuis Vatican II, qui a beaucoup mis en avant cette vocation sacerdotale du baptême, en fait, du coup, ça a créé aussi des questions autour de ça. Et puis, c'est parallèle, hein, c'est connexe, le fait que le prêtre, on pense à beaucoup comme un rôle, c'est celui qui administre les sacrements, c'est celui qui gère, on va dire, l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrement de l'ordre ? En plus, le mot ministre, moi, je trouve qu'il ne fait pas du tout honneur au prêtre, parce que ministre, ça fait très juste le bras armé, celui qui exécute, enfin, ça fait très une mission, enfin, une fonction, on va dire. Et puis, il y a aussi toute la problématique autour du sacrement. Il est valide, quelle que soit la sainteté du prêtre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'est le prêtre, qui il est, et en quoi ça le marque ? Parce que, d'un côté, si on dit que c'est la sainteté du prêtre qui permet que le sacrement soit valide, ce qui est contraire à ce que dit l'Église, hein, soyons clairs, du coup, là, on se dirait, du coup, le prêtre, c'est hyper important, effectivement, c'est investi, mais si c'est indépendant, finalement, de la sainteté du prêtre, du coup, c'est vraiment juste une fonction, quoi. Enfin, il est là pour dire les paroles, pour faire les gestes, et puis le reste, c'est bon, c'est le Christ qui agit. Donc voilà toutes ces questions qu'on va avoir. Et du coup, on va voir d'abord, on va repartir des évangiles parce que c'est toujours bien. Puis pour voir vraiment comment Jésus a institué les 12, donc surtout les apôtres. Et puis après, comment est-ce que s'est construite la succession apostolique ? Donc comment est-ce qu'il y a eu cette transmission ? Et finalement, comment l'Église est ordonnée ? Là, on retrouve le mot de ordre dans cette façon de présenter les choses. Et puis après, on parlera du rapport entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. Voilà, comment est-ce qu'ils se construisent réciproquement et comment ils sont intimement liés. Alors, d'abord le sacerdoce voulu par le Christ. Donc l'institution des 12. Donc Jésus est l'envoyé du Père. Dès le début de son ministère, il a appelé et institué les 12. Et c'est formellement dit, il gravit la montagne et l'appela ceux qu'il voulait. Donc il les a appelés. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc c'est une vraie institution. C'est pas juste un hasard, c'est pas parce qu'il y en avait 12 ce jour-là, c'est parce qu'il a prié sur la montagne et donc il y a une forme d'institution, donc il y a une forme de voilà, c'est ancré et c'est les mots mêmes de l'évangile. Dès lors, ils seront ses envoyés, ce que signifie le mot grec apostoloi, donc c'est ce que veut dire le mot apôtre, ça veut dire envoyé. En eux continue sa propre mission, la propre mission du Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous l'avez plein de références sur ce sujet-là. Et donc le ministère des apôtres, en tout cas, est la continuation de la mission de Jésus. Qui vous accueille, m'accueille. C'est ce qu'il dit aux 12. Voilà, donc il y a vraiment cette institution qui est liée à l'appel et qui est liée à cette façon dont Jésus prend les choses et les met, les ordonne, quoi, les propos. Alors Jésus, il les unit à sa mission reçue du Père. Comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais reçoit tout du Père qui l'a envoyé, ainsi ceux que Jésus envoie ne peuvent rien faire sans lui. De qui ils reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accomplir. Donc en fait, ce que les apôtres du Christ, c'est vraiment les envoyés de Jésus, comme Jésus est envoyé du Père. Donc on a cette double cascade, on va dire. Et ils sont qualifiés par le Christ pour être comme les ministres d'une alliance nouvelle, ministre de Dieu, en ambassade pour le Christ, serviteur du Christ et dispensateur des mystères de Dieu. Donc c'est des références que vous avez dans plusieurs, surtout dans la 2 Corinthiens et 1 Corinthiens, sur c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur, qui sont-ils? Alors le jeudi saint, c'est l'institution de la scène, tout le monde sait bien, mais c'est aussi le lavement des pieds. Et donc ça veut dire que les apôtres, ils sont aussi institués serviteurs. Leur part, c'est le Christ, et c'est intéressant de relire le dialogue de Jésus avec Pierre, qui au début refuse de, que Jésus lui lave les pieds, et le Christ lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi ». Et ce mot de part, c'est le même mot qui était utilisé pour la tribu de Lévi, qui, dans les 12 tribus d'Israël, n'avait pas de terre et qui avait reçu la part de Dieu, en fait, la part du service de Dieu. Donc, on est un peu cette idée de, voilà, il y a, alors, à travers, à part, il y a mise à part, il y a avoir part. Donc, on a toutes ces symboliques autour de ces deux choses-là. Et les deux choses sont vraies, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont mis à part. Et le lavement des pieds, il a lieu avec les 12, pas avec plein d'autres disciples, hein, c'est vraiment avec les 12. Et puis, il y a cette idée d'avoir part avec le Christ, donc d'être vraiment associé à sa mission. Après sa résurrection, donc, le Seigneur a fait de Simon-Pierre la pierre de son Église. Il lui a remis les clés de l'Église. Il a institué pasteur de tout le troupeau. Et cette mission, il l'a confiée aussi à tous les apôtres. C'est-à-dire que là, on l'a beaucoup avec Pierre, qui particulièrement... Mais il l'a aussi quand les 12 apôtres sont réunis, les 11, et que Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Puis on a dit dans Luc aussi « Vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc il y a un rôle de juge qui est aussi le rôle du pasteur, en fait, quelque part, qui guide aussi, c'est une forme de jugement aussi. Et puis le fait que Jésus leur remet le pouvoir qu'il a lui-même reçu du Père. Donc on a de nouveau cette cascade, le Père remet tout son pouvoir au Christ et Jésus remet tout son pouvoir, ce pouvoir-là aux apôtres en fait. Donc on est vraiment dans cette continuation et dans cette cascade.
Dans nous en fait, nous aussi nous sommes concernés.
Alors on verra après pour la partie baptismale, on reste pour l'instant sur les apôtres, on n'en est qu'au début. Et donc il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples », donc c'est la finale de Matthieu, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé ». Donc on a bien cette dimension pastorale, le pasteur de son troupeau. Alors ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que le mouvement de ce que je vous ai décrit là avec Jésus et les apôtres, c'est le même lors d'une ordination en fait. Il y a, les prêtres sont appelés. Parce que, comme c'est mentionné là, comment croire sans d'abord entendre et comment entendre sans prédicateur et comment prêcher sans être d'abord envoyé. Phrase de Romain qu'on utilise beaucoup pour l'évangélisation, mais qui est aussi très adaptée pour le prêtre. Donc personne, aucun individu ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'évangile et la foi vient de l'écoute. Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'évangile. Donc l'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par son autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ, non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Ces ministres de la grâce sont autorisés et habilités de la part du Christ. Et donc, dans l'appel de sacerdotal, c'est le même principe, il y a un appel que l'homme entend et reçoit. Il y a une réponse, qui est « je veux bien répondre à cet appel », donc il y a une forme de réponse, il y a toujours la liberté qui est là. Pour recevoir la grâce, de toute façon, sinon ça ne marcherait pas. Et puis, il y a cet envoi ensuite. Et il y a cette habilitation, c'est-à-dire que l'Église, au nom du Christ, elle habilite le fait, c'est aussi toute la longueur du séminaire, elle habilite le fait, donc il y a formellement, l'Église l'appelle pour dire oui, on accepte et on entend que c'est une vocation qui vient du Christ. Et donc, il y a cette confirmation de l'appel. Et donc, ce n'est pas le prêtre qui se déclare lui-même « Je suis appelé, j'y vais, et c'est bon, je suis prêtre. » Voilà. Les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté, le pouvoir sacré d'agir une persona Christi capitis. Donc, les diacres, eux, la force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité. Donc, on a bien ces deux ministères. Alors, je préciserai après les rôles d'évêques, prêtres et diacres. Donc, on reviendra sur cette distinction. Mais en tout cas, c'est dans tous les cas, il y a cette mission, cette faculté qui est donnée par le Christ à travers l'Église. Ce ministère dans lequel les envoyés du Christ font et donnent par don de Dieu ce qu'ils ne peuvent faire et donner d'eux-mêmes est conféré par un sacrement propre. C'est pour ça qu'il y a un sacrement, parce qu'il y a une vraie intervention du Christ pour instituer et donner ce pouvoir. Alors finalement, le Christ, il a conféré à ses apôtres trois charges. La charge d'enseigner, de sanctifier et de régir. Et c'est exactement ce que font les prêtres. Voilà. Donc tout ce paragraphe-là est une extraction du catéchisme de l'Église catholique qui m'a beaucoup inspirée. La charge d'enseigner, donc les évêques avec les prêtres, leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'évangile de Dieu à tous les hommes. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, hein, pour annoncer l'évangile. Donc c'est vraiment le premier rôle. Ils sont les héros de la foi qui amènent au Christ de nouveaux disciples, les docteurs authentiques, docteurs au sens docteur de la loi, au sens docteur de l'Église, de la foi apostolique pourvue de l'autorité du Christ. Donc ça, c'est la charge d'enseigner. Il faut savoir que l'évêque, c'est vraiment sa charge principale, l'enseignement. La charge de sanctifier. Donc l'évêque porte aussi la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce, en particulier dans l'Eucharistie qu'il offre lui-même ou dont il assure l'oblation par les prêtres, ses coopérateurs. Ça fait deux fois que vous voyez les prêtres coopérateurs. On va creuser ça tout à l'heure aussi. Car l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église particulière, particulière au sens l'Église locale, l'Église d'une communauté. L'évêque et les prêtres sanctifient l'Église par leur prière et leur travail, par le ministère de la parole et des sacrements. Ils la sanctifient aussi par leur exemple, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Donc ça, c'est vraiment le pasteur à l'image du Christ qui ne s'est pas fait, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et qui est venu pour, non pas pour juger, mais aussi pour accompagner. C'est ainsi qu'ils parviennent avec le troupeau qui leur est confié à la vie éternelle. Beaucoup d'extraits de Lumen Gentium, qui a quand même toute une partie sur la constitution de l'Église et donc les rôles de chacun. Donc forcément, il y a énormément de références à Lumen Gentium. Et enfin, la charge de régir, donc au sens de roi. Les évêques dirigent leur Église particulière comme vicaires et légats du Christ par leur conseil, leur encouragement, leur exemple, mais aussi par leur autorité et par l'exercice de leur pouvoir sacré, de nouveau le pouvoir sacré, qu'ils doivent cependant exercer pour édifier dans l'esprit de service qui est celui de leur maître. Donc le bon pasteur sera le modèle et la forme de la charge pastorale de l'évêque. Et conscient de ses faiblesses, l'évêque peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés, qu'il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme l'Église à Jésus-Christ, comme Jésus-Christ à son Père. C'est une belle proposition. Et alors saint Ignace d'Antioche, il dit même, suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, le presbytérium, donc les prêtres, comme les apôtres. Et quant au diacre, respectez-les comme la loi de Dieu, que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Donc, haute idée de saint Ignace d'Antioche sur le rôle de l'Église et sur le rôle de l'évêque. Donc on voit que le Christ est lui-même la source du ministère dans l'Église, donc il l'a institué, il lui a donné autorité et mission, il lui a donné l'orientation et la finalité, c'est vraiment le terme de ce qu'il y a. Le Christ Jésus, Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu parviennent au salut. Et donc on peut dire que le Jeudi Saint, Jésus a institué la seule réalité qui puisse se reconnaître comme directement son œuvre, ni un livre, ni une méthode, mais 12 hommes, dépositaires du sacrement qui le rend à jamais présent au milieu des siens. Une réalité suffisamment visible et durable qui ouvre l'espace de son intervention dans tous les temps et dans tous les lieux. Donc on a vraiment, c'est toujours le Christ a beaucoup parlé et on a beaucoup de ses paroles, mais il a aussi agi et à chaque fois ça se concrétise, le faire et le dire vont ensemble. Et là, l'institution, c'est pas une grande théorie avec faites ci, faites ça, mais c'est concrètement 12 hommes à qui il apprend ce qu'il faut faire et qui le missionne pour faire ça. Alors, on a déjà abordé un petit peu cette idée de succession apostolique, mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit que dès les premiers temps de l'Église, donc là, on est vraiment dans l'acte des apôtres, hein, donc c'est les tout premiers temps de l'Église, on a déjà des successeurs et des délégués qui sont institués. Alors d'abord, on a Matthias qui remplace Judas, puisque Judas est parti, donc on a Matthias, on l'a eu il n'y a pas longtemps, c'est bien parce que tous ces textes-là, on les a eus il n'y a pas longtemps. Et donc Matthias, il est, on appelle... Deux qui sont là depuis le baptême, du Christ jusqu'à témoin de la résurrection, donc deux personnes qui sont appelées en fait. Et puis, alors bon, c'est avec la méthode du tire au sort, mais c'est la manière de faire pour dire comment le Christ se positionne pour choisir lequel des deux. Et puis ensuite, il leur impose les mains. Donc on est vraiment sur le geste comme aujourd'hui pour l'ordination. On a la même chose avec les sept diacres, donc qui sont appelés normalement pour faire le service des tables. Mais enfin, on voit très vite que Étienne, il n'arrête pas de parler à tout le monde et prêche plus qu'il ne sert les tables, j'ai l'impression. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va mourir. Et puis après, on a Paul, on a les compagnons, on a les Barnabé, on a les anciens qui sont situés à Antioche, c'est les textes de cette semaine. Donc on a tous ces gens qui sont choisis et ordonnés à chaque fois. Donc on voit dans 1 Timothée comment 1 Timothée, en fait, il liste tous les... Voilà, comment choisir les personnes et donc comment les appeler et comment les discerner si c'est les personnes qui vont bien. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que dans la charge des apôtres, en fait, les 12 apôtres, il y a un aspect intransmissible. Effectivement, seuls les apôtres sont les témoins choisis de la résurrection du Seigneur et les fondements de l'Église. Ça, aucun des successeurs évêques ou prêtres n'est ça. Parce qu'ils ne sont que, pour le coup, témoins de la résurrection, comme toute personne dans l'Église. Mais ils n'ont pas vu le Christ et ils ne sont pas les fondements de l'Église. Voilà, donc ça, c'est l'aspect intransmissible. Par contre, il y a un aspect permanent de leur charge, qui est beaucoup lié à ce que le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Donc le Christ, il n'a pas juste institué quelque chose il y a 2000 ans et puis après il a dit « Bon, bah, maintenant c'est fait, je retourne au ciel et voilà, débrouillez-vous ». Non, il a voulu quelque chose puisqu'il dit « Faites cela en mémoire de moi », puisqu'il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Voilà, donc il y a cette idée de continuité pour rendre présent à notre temps d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a cette dimension qui s'étire voilà, jusqu'à la fin des temps. Et donc la mission divine confiée par Jésus aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. C'est vrai que quand Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les », c'est bien évidemment pas les 12 personnes, même les 11 à l'époque, qu'il a devant lui, qui vont pouvoir faire ça. Donc bien évidemment que Jésus, il a pensé le fait qu'il y aurait une transmission et qu'il y aurait des successeurs. Voilà. Alors le mot qu'on voit, c'est pas du tout prêtre, c'est pas évêque non plus d'ailleurs, c'est le mot ancien qui apparaît d'abord. Alors ancien en même temps en grec, le mot prêtre vient du mot du grec presbyteros qui veut dire ancien, mais en tout cas dans les évangiles, ce qu'on a, c'est le mot ancien. Ancien, ça dit bien quelque chose de celui qui sait, de celui qui... Voilà, on retrouve la dimension charge enseignée que je mentionnais tout à l'heure. C'est celui qui a le plus d'expérience dans le groupe et qui peut donc conseiller ou diriger en vertu de son expérience. Un autre mot qui est utilisé, c'est le sacerdoce. Alors, sacerdoce, ça vient du latin sacer, sacré, et do, je donne. Donc, le sacerdoce, c'est l'activité de celui qui donne, qui fait le sacré. Et donc, le prêtre est bien l'homme du sacerdoce, en ce sens qu'il va être l'intermédiaire entre la communauté humaine et le divin. Et il va permettre de faire que le sacré soit présent. Voilà. Alors, dans l'Ancien Testament, ces deux rôles n'étaient pas portés par les mêmes personnes. Puisqu'on avait les prêtres qui étaient, dont je vous ai déjà parlé, la tribu de Lévi, en fait, qui étaient chargés d'accomplir les rites. Et puis, par contre, on avait d'autres personnes qui étaient plutôt les docteurs de la loi, qui scrutaient les Écritures, et ce qui est les pharisiens dans les évangiles, c'est ça. C'est pas du tout des prêtres. C'est des gens qui sont plutôt dans la charge d'enseigner et d'expliquer. Donc, on voit bien qu'il y a cette distinction dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau Testament, c'est concentré sur les mêmes personnes. Puisque toute personne, à l'imitation du Christ, doit être à la fois prêtre, prophète et roi, en fait. Et donc enseigner, sanctifier et régir. L'institution par les apôtres de leurs successeurs se fait par l'imposition des mains. Donc c'est ce que je vous disais pour Matthias, mais c'est vrai pour les diacres, et c'est vrai plein de fois dans les actes des apôtres ou les premières lettres. De saint Paul, et donc on a bien donc c'est vraiment le geste majeur. Les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Et donc c'est ce que reprend le rite du sacrement de l'ordre. Quels que soient les degrés, il y a l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant. Alors, Soit les pages se sont tournées. Ouais, je te vois perdu.
Pourquoi pourquoi 3 degrés ?
Voilà, c'est là.
C'est bien celle-là que j'avais. Alors.
Voilà. Donc c'est bien l'essentiel du rite, c'est vraiment cette imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant, ainsi que la prière consécratoire spécifique, alors elle est spécifique à chacun des trois ordres, qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné. Donc on a vraiment cette... donc on peut dire que c'est vraiment le rite très très ancien. Alors après, il y a d'autres choses qui sont spécifiques pour l'évêque, pour le prêtre, pour le diacre. Il y a, voilà, il y a des tas de symboles, il y a la myrrhe, il y a la crosse, il y a d'autres choses. Mais globalement, c'est vraiment l'imposition des mains qui fait le sacrement à l'imitation des premiers apôtres. Alors le mot ordre, puisqu'on parle du sacrement de l'ordre, donc voilà, ça distingue, en fait, ça déterminait dans l'Antiquité romaine, donc profane, ça désignait des corps constitués au sens civil, donc particulièrement le corps de ceux qui gouvernent. Donc en fait, on a cette idée d'ordre qui est un certain nombre de personnes qui sont mises à part pour une mission particulière. Et dans l'Église, l'ordination des évêques, des presbytres ou des prêtres et des diacres va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation, institution par la communauté, ce qui était le corps dans le terme romain, puisqu'elle confère un don de l'Esprit Saint qui permet de recevoir toujours ce pouvoir sacré dont on a déjà parlé, qui ne peut venir que du Christ par son Église. Et donc, quelque part, qui fait que l'ordonné une persona Christi, capitis, voilà. Je suis fâchée avec le latin. Alors, on appelle aussi l'ordination consécration, mais ça, c'est plus large, en fait, puisqu'il y a cette idée de mise à part, on a déjà parlé de ce terme-là, et d'investiture par le Christ lui-même pour son Église. Mais bon, c'est vraiment le mot ordre qui est resté, parce qu'il y a l'idée aussi d'ordonner, il y a l'idée de conséquence et de succession. Alors, si on revient un petit peu sur pourquoi 3 degrés dans l'ordination, alors là, je vous ai mis une flopée de commentaires de Lumen Gentium pour essayer d'expliquer ça. Alors, parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Église depuis les premiers temps, la première place, au témoignage de la tradition, appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines, sont les sarments par lesquels se transmet la semence apostolique. C'est pourquoi l'Église enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ, et celui qui a envoyé le Christ. Alors, c'est pas le mot évêque qui est employé dans les premiers successeurs, mais c'est bien cette idée d'avoir des gens qui sont responsables de l'Église locale, et donc d'un vrai troupeau, quoi. Voilà. Donc il y a bien cette idée-là, et il y a cette idée que ça se transmet d'apôtre en évêque et d'évêque en évêque. Voilà. Et donc il y a une transmission depuis le Christ jusqu'à nos évêques aujourd'hui, y compris le dernier en date qui arrive la semaine prochaine. Enfin, il est déjà évêque, hein, mais ce sera notre évêque, voilà, de notre Église particulière. Voilà, c'est pas un nouvel évêque, effectivement. Les évêques sont chacun pour sa part principe et fondement de l'unité dans leur Église particulière. Donc on a vraiment cette dimension de l'évêque qui est de enseigner, sanctifier et régir l'Église, donc le troupeau qui lui est confié, qui en général a une visibilité géographique. Voilà, comme tel, il exerce leur autorité pastorale sur la portion de peuple de Dieu qui lui a été confiée, assisté des prêtres et des diacres, donc il lui permet d'exercer son pouvoir, son rôle, sa mission, suffisamment, en étant suffisamment nombreux pour tout le troupeau. Et puis, il a aussi une autre dimension. Comme membre du collège épiscopal, chacun d'entre eux a part à la sollicitude pour toutes les églises qu'il exerce d'abord en gouvernant bien leurs propres églises comme une portion de l'Église universelle, contribuant ainsi au bien de tout le corps mystique qui est aussi le corps des églises. C'est très intéressant de se dire que l'évêque, c'est pas juste on lui confie son petit territoire et puis il se débrouille et voilà. Non, en fait, il est ce petit territoire, cette église particulière, ce n'est qu'une partie de l'Église universelle et donc du corps du Christ. Et donc, il a une responsabilité aussi vis-à-vis de la de l'universalité, quoi, de la catholicité de l'Église. Et donc, il y a cette dimension qu'on reviendra tout à l'heure sur la dimension collégiale. Mais c'est très important de dire que ce n'est pas une délégation où le Christ il a donné à un apôtre quelque chose. Non, il a donné aux apôtres. Et c'est très important, cette dimension-là, que l'évêque, il n'est pas seul porteur, en fait. Quelque part, parce qu'il porte le Christ, il porte aussi, finalement, toute l'Église qui est le corps du Christ. Donc, c'est jamais en son nom individuel, on va dire. Voilà. On pourrait creuser, mais ce n'est pas l'objet du tout de ce cours-là, mais là, c'est la même chose pour le pape. Voilà. Même quand il dit une parole, il a un rôle particulier, mais en même temps, voilà, on voit bien dans les conciles, etc., c'est le collège qui parle. Alors, la sollicitude de l'évêque, elle s'étendra particulièrement aux pauvres, aux persécutés pour la foi, ainsi qu'aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre. Et saint Ignace d'Antioche dit « L'évêque est typos tou patros, il est comme l'image vivante de Dieu le Père ». J'aime bien, c'est mignon, je trouve, typos tou patros. Ça veut dire image vivante de Dieu le Père. Donc c'est le type même du Père avec un grand P. Voilà. Ça fait un peu patois, je trouve, typos tou patros. Voilà. Et donc il y a cette idée de, voilà, il est Père aussi pour son troupeau. Il y a cette dimension-là aussi. Dans le pasteur, c'est aussi ça. Voilà. Et puis j'aime bien l'idée qu'effectivement, il s'étend particulièrement aux pauvres, aux persécutés, puisqu'il a cette dimension, il incarne le Christ. Le Christ, c'est particulièrement, il a dit, faites attention aux pauvres, les enfants, les petits, les persécutés. Donc c'est bien ce qui est au centre de son sacerdoce. Alors le Christ que le Père a consacré, envoyé dans le monde, a par les apôtres, fait leur successeur, c'est-à-dire les évêques, participant de sa consécration et de sa mission. À leur tour, les évêques ont légitimement transmis à divers membres de l'Église et suivant les degrés divers, la charge de leur ministère. Donc leur fonction ministérielle a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Alors subordonné dans le sens où le prêtre agit au nom de l'évêque en fait. Ceux-ci sont établis dans l'ordre du presbytère, donc ça c'est les termes techniques, pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal dans l'accomplissement de la mission. Donc c'est vraiment, ils sont coopérateurs les prêtres. Pour que l'évêque puisse réaliser sa mission, il a besoin de coopérateurs. Mais ils ne sont pas prêtres tout seuls non plus. La fonction des prêtres, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, donc unie à l'évêque, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. Toujours les trois mêmes notions. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose des sacrements de l'initiation chrétienne, est cependant conféré au moyen du sacrement particulier, qui par l'onction du Saint-Esprit, les marques d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Donc là, on touche déjà le début de pourquoi le sacerdoce est différent du sacerdoce baptismal. Donc oui, évidemment, le prêtre, il est baptisé. Il est déjà prêtre, prophète et roi à titre de baptisé. Mais là, il est il y a une onction du Saint-Esprit qui le marque d'un caractère. Le baptême déjà nous marque d'un caractère. Hein, donc on a le sceau du Christ qui est emprunt en nous. Mais lui, c'est encore plus fort puisque c'est au nom du Christ tête en personne. Et non pas du Christ membre en fait, ce que nous sommes dans le baptême. C'est dans le culte eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée. Et donc c'est vrai que le prêtre, c'est ça aussi. Qui est, autant la charge d'enseigner, elle est très... resterait aux charges de l'évêque, ça n'empêche pas le prêtre de nous enseigner, bien évidemment, ne serait-ce que dans l'homélie. Mais c'est vrai que la charge principale est là où il a besoin de coopérateurs, c'est pour l'Eucharistie, et je dirais pour le sacrement de la confession, parce que pour que ce soit disponible pour disposer pour tout le monde, faut un peu de coopérateurs. Voilà. Mais donc, c'est le culte eucharistique qui est principalement la charge du prêtre. Alors ensuite, les diacres, ils participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Donc le sacrement est marque d'une empreinte que nul ne peut faire disparaître. Donc pareil, le diacre, c'est pas temporaire, c'est pas juste un petit rôle. C'est une vraie empreinte avec un vrai sacrement de l'ordre qui les configure au Christ. Alors là, pas Christ tête, mais le Christ serviteur, tant que serviteur. Voilà, serviteur de tous. Donc, il appartient entre autres aux diacres. Donc, c'est intéressant aussi, les diacres sont rattachés aux évêques. Pas au prêtre, donc c'est pas une cascade, c'est l'évêque, il a deux types de coopérateurs, il a les diacres pour la partie service, et puis et aussi pour la charge d'enseigner, du coup, pas mal, et puis il a les prêtres pour la charge, pour les parties des sacrements. Mais c'est pas étanche, puisque le prêtre, il enseigne aussi, et le diacre, il peut donner un certain nombre de sacrements, notamment le baptême, voire pour les mariages aussi. Donc c'est pas...
Il a le droit de se marier lui aussi.
Alors ça, on verra. Oui, particulièrement.
Avant.
Alors dans l'ordre de sur le célibat. Non, c'est pas ça. C'est dans l'ordre. Il faut d'abord être d'abord se marier et ensuite être diacre. Une fois qu'on est ordonné, on se marie pas parce que l'ordination elle nous configure au Christ et donc le Christ était célibataire. Donc du coup, on se marie pas après. Donc le sacrement, donc ça j'ai dit tout. Voilà, et son rôle c'est il assiste l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie. Donc il est au service de l'autel, très important. Il distribue l'Eucharistie, il assiste au mariage et les bénit, proclame l'Évangile et le prêche. Il préside aux funérailles, bon, et plein d'autres exercices de la charité qui sont nécessaires, et la dimension des plus pauvres. Alors, la dimension collégiale. Alors en fait, la dimension collégiale, elle a deux dimensions, parce que c'est à la fois la communion dans le temps, c'est ce qu'on a vu avec la succession apostolique, donc on est comme une chaîne depuis le Christ jusqu'à maintenant, et puis dimension dans l'espace, puisqu'on a le collège épiscopal autour du pape, et donc ça fonctionne aussi en collège, et puis le collège presbytéral des prêtres autour de son évêque. Et donc on est bien dans la même logique que les 12 apôtres autour du Christ, ou les 11 apôtres autour du Christ. L'Église est apostolique, donc on est bien dans cette dimension collégiale et successorale, on va dire, parce qu'elle est fondée sur les apôtres, et ceci en un triple sens. Elle a été demeure bâtie sur le fondement des apôtres, c'est eux qui ont été témoins, choisis et envoyés en mission par le Christ lui-même, et donc c'est eux qui ont amorcé la chaîne. Elle garde et transmet avec l'aide de l'Esprit qui habite en elle l'enseignement, le dépôt de la foi, les paroles entendues des apôtres. Donc, ils ont un rôle de faire fructifier, de faire, voilà, d'annoncer l'Évangile et de sanctifier. Donc, de prendre en à leur compte ce que les apôtres ont reçu comme mission. Et elle continue aussi à être enseignée. Donc, elle enseigne, etc. Mais elle est aussi continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale. Au collège des évêques, assisté par les prêtres, en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Père éternel, tu n'abandonnes pas ton troupeau, mais tu le gardes par tes bienheureux apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui l'œuvre de ton Fils. C'est la préface des apôtres dans le missel romain. Et donc, on a bien cette idée de continuation, mais tout unifié quelque part. Et cette communion, cette dimension collégiale, elle est vécue par l'Esprit-Saint, en fait. C'est lui qui unit. Parce que c'est lui qui est à l'imposition des mains, c'est lui qui oint chaque ordonnée, et c'est lui qui finalement assure cette triple dimension de garder le dépôt de la foi des apôtres, de se laisser toujours inspirer, renouveler et enseigner par l'Esprit, et puis de le répandre et de le répondre aux autres. Et donc, dans tous les rites d'ordination, on a, quand je dis tous les rites, c'est les rites, les trois types, là, incarne bien cette collégialité. En fait, c'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le collège, chef du collège et ses membres, que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Alors, je n'ai jamais assisté à une ordination d'évêque, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais c'est pareil, ce n'est pas juste un évêque, ni même le pape tout seul, qui ordonne un évêque. Il y a tout le collège épiscopal, donc il y en a un certain nombre d'évêques autour, et c'est chacun qui va remettre, imposer les mains sur l'ordinant. Et de la même façon pour un prêtre, on a ce même usage, qu'après que l'évêque ait imposé les mains au futur prêtre, tous les prêtres du diocèse de Paris, par exemple, ils vont aussi imposer les mains. Voilà. Donc on a bien cette communion qui est visible dans ces rites-là. Voilà. Et on l'a aussi, alors je ne l'ai pas mentionné là, mais on l'a aussi pour la messe chrismale, où autour de l'évêque se retrouvent tous les prêtres, et de nouveau, c'est là qu'on a tout ce qui est autour des bénédictions des huiles. Et donc on a bien ce collège qui, au moins une fois par an, est réuni. Alors bon, il y a toujours des gens qui ne sont pas là, mais globalement, il y a cette dimension vraiment collégiale qui imprègne l'Église. Alors, un corps ordonné. Alors là, je voudrais faire un petit paragraphe sur la notion de hiérarchie. Alors, nous, on a une vision, surtout à l'époque actuelle, on est assez contre l'autorité en général. On a une vision hiérarchique qui nous donne une impression très descendante des choses, avec une autorité qui est... voilà, qui est perçu comme venant d'en haut et qui s'impose à moi. Et puis, avec des intermédiaires, mais qui sont perçus comme opaques. Pourquoi pas s'adresser directement au Seigneur ? C'est toute la vision du protestant, de beaucoup de protestants. Voilà, l'idée de dire, on peut... pourquoi ne va-t-on pas directement au Christ plutôt que de passer par ses intermédiaires ? C'est dit comme ça. Et donc, pour eux, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais c'est cette vision de la hiérarchie qui n'est pas du tout celle de l'Église, dont je vais vous parler, mais qui est cette vision très, finalement, très humaine de ce que c'est qu'une hiérarchie mal organisée. Parce que même une hiérarchie humaine, elle peut être bien organisée. Et c'est pas une, ça ne s'impose pas à tous. Voilà. Ça respecte la liberté de chacun. Voilà. Mais l'Église, c'est une société de la charité divine. Donc, ça veut dire que la transmission du don divin n'implique aucune dégradation de celui-ci. L'amour de Dieu est inséparable de Dieu lui-même, et donc chaque fois que cet amour passe d'une créature à une autre, c'est lui-même qui se communique. Et donc, quand Jésus se communique, il ne se communique pas un petit bout, il se communique, voilà, en entier. Donc, chacun le reçoit toujours immédiatement, et par là, intégralement. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu dans l'Eucharistie. On reçoit un petit morceau de pain, mais c'est tout Jésus qu'on reçoit. Et même si on reçoit que le pain et pas le vin, c'est tout Jésus qu'on reçoit. Voilà. Et donc l'amour de Dieu, c'est pas des petits bouts d'amour. Il n'y a pas des petits bouts de, il n'y a pas une déperdition d'énergie comme dans notre monde pécheur. Mais il y a cette intégralité des choses. Et donc la transmission dans l'Église, voulue par le Christ, elle se fait intégralement. Et donc c'est pas parce que je suis à la fin d'une chaîne, que je n'ai pas Jésus en entier. Voilà. Donc ça, c'est une vision très pécheresse de la hiérarchie. Alors, je vous ai mis plein d'autres textes, parce qu'ils sont très bien, de Louis Bouillet. Il y en a un du Père Invisible et l'autre de l'Église de Dieu. Ce qui constitue, donc il commente ce que Denis l'Aéropagite a dit sur la hiérarchie, et donc Louis Bouillet en fait un commentaire. Ce qui constitue pour Denis la hiérarchie, c'est le fait que tout don reçu de Dieu, et qui nous établit non seulement dans l'être, mais dans cet être spécifique qui est le nôtre, ne peut être gardé, possédé, exercé qu'en se communiquant à ceux qui ne sont pas élevés d'emblée si haut. C'est comme la lumière, si on ne la passe pas, et ben elle va finir par s'éteindre, faute de carburant. Voilà. Et par contre, quand on la passe, elle est à la fois complètement dans celle que je garde et dans celle que j'ai donnée. Voilà. C'est le même principe avec les dons de Dieu, la transmission de Dieu. Il s'agit dans l'Église, pour tous ceux qui prennent conscience d'être aimés ainsi de Dieu, de découvrir que le don même de cet amour est d'aimer comme on a été aimé, de telle sorte qu'on ne peut aimer Dieu en retour sans aimer avec lui tous ceux qu'il aime, sans l'aimer comme lui, à sa manière propre et inimitable. Bon, je vous laisserai méditer la phrase. C'est vraiment le côté amour qui, voilà, qui nous conduit à ça aussi. Parce que quand on reçoit le Christ, ben, quand on connaît, ben, on n'a qu'une envie, c'est de le transmettre. Voilà, c'est tout le principe de l'évangélisation et c'est tout le principe de l'amour. On a envie d'en parler aux autres. Et on a envie de l'imiter, c'est-à-dire d'aimer comme lui, il aime. Voilà, ça aussi. Donc, il s'ensuit que le plus élevé le don reçu, c'est-à-dire la participation à l'amour des levains, et plus généreuse doit être la disposition à le communiquer ce don à ceux qui en sont encore démunis. Ainsi, jusque dans les créatures des plus élevées aux plus humbles, ce don qu'est la propre vie divine se répercute et se prolonge authentiquement, authentiquement ça veut dire intégralement, hein, et l'Église n'est que la suprême irradiation jusqu'en l'humanité de cet amour même qu'est la vie de Dieu. Alors, c'est intéressant parce qu'ils mettent des notions de plus élevé, plus humble, etc. Mais en fait, qu'on soit plus élevé ou plus humble socialement, ou même au regard de Dieu, parce qu'on l'a reçu après, ne serait-ce que ça, ça ne veut pas dire qu'on l'a moins ou qu'on est plus loin. Voilà, on l'a intégralement. Et c'est, si on l'a intégralement et si on le reçoit intégralement, en fait, on va le donner aussi intégralement. Et on ne peut pas le garder pour soi. Voilà. Donc, c'est cette chaîne de transmission qui est vraiment l'armature de la hiérarchie de l'Église. Alors, je vous ai mis un autre texte du père Giton, que je trouve très bien, qui explique bien cette hiérarchie. La hiérarchie est ce vaste ensemble mis en place par Dieu pour transmettre ses dons, en passant par une cascade de médiateurs qui ne sont tels, donc qui ne sont médiateurs, qu'à condition de transmettre ce qu'ils ont reçu à ceux qui viennent après eux. C'est la même lumière qui circule d'un bout à l'autre de la hiérarchie, puisque personne ne garde rien pour lui, si bien que cette transmission se fait sans déperdition. Les différents degrés se distinguent seulement par l'amplitude plus ou moins grande de leur pouvoir de transmettre. L'évêque est à la source de tout et donne non seulement la vie divine, mais la possibilité même de la transmettre, en ordonnant les prêtres. Donc l'évêque, c'est lui qui a tout reçu. Et par contre, lui, comme le Jésus, qui a tout reçu du Père, il a transmis à ses apôtres la possibilité de même transmettre. Ben, c'est ce que fait l'évêque, en fait. Il transmet le pouvoir de transmettre. Et ça, c'est ce que font les prêtres. Ceux-ci, à leur tour, transmettent ce qu'ils ont reçu en dispensant les sacrements, les baptisés, faits par eux enfants de Dieu, transmettent la lumière à ceux de l'extérieur qui s'approchent de la foi, les catéchumènes.
Mais c'est aussi ce qu'on fait nous aussi.
Exactement. Les baptisés, eux, ils transmettent.
Et nous, on transmet
voilà.
aux autres.
C'est ouais. exactement pareil. Sauf que ce n'est pas la même degré de transmission parce que nous, par exemple, on ne transmet pas des sacrements.
Non,
on transmet. Donc, c'est une autre manière de faire.
La parole de Dieu,
voilà.
L'amour de Dieu, c'est ça
Mais
qu'on transmet.
Mais tout le monde transmet. Alors, plus on reçoit pouvoir quelque part, plus on a à transmettre ouais. des choses. Donc, par les sacrements, on transmet peut-être plus de choses, mais on transmet pas, on transmet plus de choses, mais on transmet le même Christ, voilà, qui est tout. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est ça. Mais du coup, plus on a reçu, plus on transmet. C'est vraiment le principe du vers de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui dit « Plus le verre est grand et plus il est rempli, et plus de toute façon je suis heureuse, mais si j'ai un petit verre, bah, il est, du moment qu'il est plein, c'est pareil. Enfin, » oui. La notion de bonheur, elle est la même. C'est la notion d'être empli de Christ. Voilà. D'accord. L'image qu'a donnée le Christ, c'est la construction d'un édifice qui s'élève, donc l'Église. Et c'est intéressant, il n'a pas donné une vision hiérarchique avec, je sais pas, le Christ en haut. On parle de la tête du corps, mais quand même, il y a pas, voilà. Il s'est aussi mis la pierre angulaire. La pierre angulaire, elle n'est pas du tout en haut. C'est pas la pierre du sommet. C'est une pierre qui est sur le côté et qui permet de tenir toute l'édifice. Et de la même façon, on dit que les 12 apôtres, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, la muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et donc, c'est bien des fondements. Donc, on s'appuie sur les apôtres et donc, quelque part, sur les prêtres qui sont, ou les évêques qui sont comme les colonnes. Voilà. Et nous, on a chacun notre place. Mais l'édifice, il se construit comme ça. Et finalement, on s'appuie plus. Enfin, j'aime mieux la notion de s'appuyer. Je trouve qu'elle est plus belle. La notion de s'appuyer sur les ministres ordonnés plutôt que cette idée de cascade qui vient du ciel. Alors, maintenant, sacerdoce ministériel et sacerdoce baptismal. Alors, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'il y ait entre eux une différence essentielle, on va voir laquelle, c'est la différence de caractère, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Donc là, c'est vraiment pour réfléchir à la chose de ne pas voir dans le prêtre qu'un rôle fonctionnel, comme si on avait ce qui compte, c'est d'être baptisé. Voilà, on est prêtre, prophète et roi. Et puis après, il nous faut des ministres parce qu'il faut bien assurer le culte et faire des choses. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un peu comme si on avait deux réalités, deux caractères d'ailleurs donnés, deux empreintes du Christ dans le baptisé et puis dans le prêtre, qui est baptisé aussi, mais qui est prêtre aussi. Et du coup, que ces deux choses-là, elles se communiquent, elles échangent pour pouvoir œuvrer pour le salut du monde. Et pourquoi ces deux modes d'être sont complémentaires? Parce que finalement, l'unique sacerdoce, c'est celui du Christ. C'est pas celui du prêtre, c'est pas celui du baptisé, c'est celui du Christ. Voilà. Quand il commence sa vie publique, alors Jésus de Nazareth, il se comporte comme un enseignant et un thaumaturge. Donc, il réunit des hommes autour de lui, les instruit, il parle aux foules. Mais à aucun moment, Nathanaël l'appelle Rabbi, à aucun moment, on voit qu'il y a quelque chose à voir avec les prêtres. Donc, il n'est pas prêtre au temple, on ne parle pas de sacrifice, on ne parle de rien de tout ça. Donc, il n'est même pas de la tribu qui va bien. Il est comme une autorité morale et spirituelle et pas du tout comme l'autorité des rites du culte. Puis après, on voit dans la lettre aux Hébreux, et donc c'est par la croix, la passion et la résurrection que la lettre aux Hébreux commente, que Jésus le Christ est le véritable grand prêtre. Donc en fait, c'est en relisant la passion et la résurrection du Christ que la lettre aux Hébreux nous dit qu'il est le grand prêtre qui réintroduit l'homme dans l'amitié perdue de Dieu. Et là où tous les autres grands prêtres de l'Ancien Testament ont échoué par leur sacrifice rituel indéfiniment répété, il a réussi en offrant une fois pour toute sa propre humanité à Dieu par la mort sur la croix. Et donc ce sacrifice où Jésus, à la fois prêtre et victime, est efficace. C'est donc dans sa passion et sa résurrection que Jésus apparaît vraiment comme prêtre au sens de l'homme du sacré, alors que tout ce qui précède dans sa vie publique a fait de lui un homme digne de foi, un prêtre au sens de l'ancien, celui qui enseigne, celui qui conseille. Voilà. Et donc cet unique sacerdoce du Christ, qui a bien toutes ses dimensions, hein, enseigner, sanctifier et régir, Et bien, c'est finalement par la passion et la résurrection qu'il est grand prêtre. Voilà, donc c'est à ce moment-là. Et donc, tout baptisé est prêtre. Dans la suite de cette unique sacerdoce du Christ. On dit quand on est baptisé qu'on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ, donc c'est bien dans ce sens-là qu'on est configuré au Christ. Et du coup, il est prêtre dans ce sens-là, dans le sens qu'il peut et doit à la suite de Jésus, dans la confiance totale en lui, offrir sa vie à Dieu pour qu'il en dispose comme il le voudra. Donc c'est ce qu'a fait Jésus sur la croix, il s'est offert au Père pour restaurer le lien entre l'homme et Dieu. Et puis, il est aussi dans le sens de alors, ce sacerdoce baptismal peut déboucher sur le martyre. C'est le témoignage de la foi dans le don de soi. Donc, le don de soi et l'offrande au Père peut aller jusqu'à l'offrande de sa vie dans le martyre. Mais en tant que baptisé, on est aussi prêtre au sens de presbytérios, c'est-à-dire l'ancien capable de conseil et d'autorité. C'est ce qui se vit classiquement dans une famille avec les parents, par exemple. Mais c'est ce qu'on disait quand on parle à des non-baptisés ou à des baptisés d'ailleurs. On peut leur donner une parole d'enseignement. Puis c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment, par exemple. Donc, par contre, il y a certains qui reçoivent officiellement une mission d'autorité, de conseil et de célébration des sacrements. Donc ça que nous n'avons pas en tant que baptisés. C'est-à-dire un sacerdoce ministériel dans la communauté chrétienne. Ce sont les prêtres qui sont mis à part pour exercer cette mission. Donc, ils ne sont pas retirés du monde. Ils sont dans le monde comme nous, baptisés. Mais ils sont quand même mis à part pour ce sacerdoce. Et donc, comme mis à part pour le Christ. Voilà. Et c'est à travers eux, donc ils sont à la fois, effectivement, comme nous, prêtres, au sens qu'ils offrent leur vie au Père et que ça peut aller jusqu'au martyr. Mais ils sont aussi presbytériens comme nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner des conseils et avoir une fonction d'autorité. Mais ils sont en plus capables de faire du sacré quelque part et donc de nous donner les sacrements. Voilà. Et donc il y a des gestes du Christ, où ils incarnent le Christ en personne, qui sont faits uniquement par les prêtres. Donc c'est pas comme dans les prêtres de l'Ancienne Alliance, ceux qui sont spécialistes du sacré, et finalement quelle que soit leur vie personnelle et morale, mais c'est vraiment des hommes que le Christ a investis entièrement pour la mission, pour être ce Jésus qui veut sauver toute l'humanité, et notamment dans le nom de l'Eucharistie. Bérulle a beaucoup réfléchi à travers la notion d'état, puisqu'il a beaucoup écrit sur les états du Christ. On va essayer pour imiter le Christ, le suivre dans ses états, les différents états qu'il a eus. Et donc, il parle de l'état sacerdotal, qui ne réduit pas à la fonction de prêtre, ni à sa mission de transmettre les sacrements. Parce que pour lui, le prêtre est à l'origine de toute la sainteté qui est en l'Église de Dieu. Donc, c'est un peu la source, au sens qu'ils sont le Christ tête. Pour Bérulle, l'onction sacerdotale émane de celle de Jésus, lequel est prêtre en raison de l'union hypostatique. Alors, l'union hypostatique, c'est en tant que personne divine. Le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu, et dans la Trinité, il est une personne, une hypostase, c'est-à-dire qu'il est d'emblée, antérieurement à tout acte méritoire qu'il peut poser, offert, on va dire, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est la phrase d'Hébreu. Donc avant même qu'il ait commencé sa mission, fait tout ce qu'il veut, il est déjà, il suit la volonté de Dieu.
Voilà. C'est qui Bérulle?
Bérulle, c'est un prêtre du 18e, 17e, toujours un peu mouillé, de l'école française. Donc voilà, qui a beaucoup écrit. Père Gitton aime beaucoup Bérulle, et toute l'école française d'ailleurs. Donc c'est le vocabulaire. Donc le sacerdoce du Christ provient formellement et directement. Alors, c'est un peu compliqué ces termes. Le sacerdoce du Christ provient formellement et directement de la grâce substantielle de l'union hypostatique et ne fait qu'un avec son être, en tant qu'il est une personne divine incarnée. C'est parce qu'il est le Fils, personne divine de la Trinité, incarné, qui est vrai homme, et qui a cette union entre vrai homme et vrai Dieu, en Jésus, qu'il est grand prêtre, en fait. C'est parce qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, et qu'il y a cette union entre les deux qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule volonté, que la volonté de l'homme est alignée ou ajustée à celle de Dieu, que le Christ peut être le grand prêtre et que son sacrifice est parfait. Et que donc il ne l'a fait qu'une seule fois sur la croix, et parce qu'il a cette obéissance parfaite. Voilà. Et si je transpose, enfin c'est pas moi, hein, c'est Bérulle, si on transpose ce qu'a vécu le Christ par rapport à son père avec le prêtre, on a la même, pour lui c'est la même chose, l'ordination en fait du prêtre. C'est-à-dire que le prêtre a reçu dans l'onction, dans l'imposition de l'évêque, il reçoit une onction qui le fait instrument conjoint du Christ. Conjoint au sens comme l'humanité du Christ qui était conjointe à son humanité, à sa divinité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Voilà, donc il y a la même idée d'association entre la personne du prêtre et la personne du Christ, puisqu'il est moins comme Christ. Alors, on dit instrument conjoint parce que l'instrument non conjoint, il agit seulement sous l'impulsion de l'agent. Donc, ça veut dire qu'il suit la volonté. C'est ce que nous sommes, un instrument non conjoint, en fait. Alors, quand on sera tous saints, peut-être qu'on sera vraiment plus conjoint. Mais là, pour l'instant, on n'est pas complètement conjoint. Et par contre, le prêtre, c'est un instrument conjoint au sens où, quand il est à l'autel et qu'il dit les paroles de la consécration, c'est vraiment le Christ, quoi. Donc, c'est pas... voilà. Donc, il y a vraiment cette union. Cette imbrication entre le, voilà, conjointe avec la divinité du Christ. Et c'est la même chose, c'est les actes que le prêtre pose, une personne à Christi, sont ceux-là même que pose Dieu. Donc il agit bien en tant que Christ. Donc il est bien investi de cette divinité. Cette union, cette grève féconde qui fait du prêtre un être habité par le Christ, le vide de lui-même et l'ouvre à Dieu d'une manière particulière. En conséquence de quoi, un prêtre qui ne vit pas selon son état est une contradiction dans les termes, même si ses actes sont objectivement valides. Donc en fait, quelque part, cette union, quelque part, elle vide le prêtre de presque de sa personne, puisqu'il est complètement investi du Christ. Donc il y a cette idée de transformation en Christ et qui devient, qui est comme vidé de lui-même pour s'ouvrir à Dieu d'une manière très particulière. C'est pour ça que c'est objectivement pas odieux quand un prêtre ne se conduit pas comme un prêtre, voilà, ou comme un saint. Même si ce sont des hommes et on sait bien que c'est pas si simple que ça et que le péché est passé par là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très douloureux pour l'Église, que des prêtres, et pour le Christ, que des prêtres ne soient pas à la hauteur de cette onction. Ça n'empêche pas que leurs actes sont objectivement valides, parce qu'ils sont aussi pécheurs et que le Christ a voulu que ce soit « faites-le en mémoire de moi ». Il n'a pas dit « c'est conditionné par ci ou ça ». Donc il est bien, ils le font en l'état du Christ, même s'ils ne se vident pas complètement et qu'ils ne le font pas complètement pur, c'est pas l'idéal. Non, mais c'est moi qui dure. La fonction médiatrice découle de l'être... ça, je vais peut-être pas m'attendre là-dessus... Donc c'est vraiment cette idée que la divino-humanité du Christ se prolonge dans le corps ecclésial et manifestement par le prêtre qui du coup devient médiateur dans le même sens que le Christ en fait. Donc l'Église n'est pas un simple intermédiaire pour dispenser cette grâce. L'Église au sens la hiérarchie, donc la partie prêtre, qui lui resterait extérieure, c'est bien pourquoi elle peut être dite sacrement du salut. Voilà, il y a une idée d'imprégnation. Alors, je vais rapidement terminer sur la kénose du prêtre à l'image du Christ. Donc, kénose, ça veut dire abaissement. On dit que le Christ, la kénose du Christ, enfin, c'est le mot qui est employé pour dire, l'incarnation, c'est déjà un abaissement de Dieu dans l'humanité. Et puis après, sur la mort sur la croix, double kénose. Et donc, c'est ce que propose en tout cas le pape Benoît XVI, parce qu'il dit que vraiment, ça que l'ordination, elle crée un changement ontologique, c'est-à-dire de l'être même du prêtre, parce qu'elle le transforme d'une manière particulière en Jésus-prêtre, en fait, selon une vraie consécration de tout son être. Et c'est comme une forme indélébile imprimée dans son âme qui le ferait prêtre pour l'éternité. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire que dans la Jérusalem céleste, on n'aura peut-être pas besoin de l'Eucharistie parce qu'il y a Jésus qui est là, donc. Mais du coup, ils sont quand même prêtres, voilà. Donc, ils ne sont pas prêtres uniquement de par leur fonction, c'est-à-dire de nous donner les sacrements qui sont valables pour cette terre en attendant le retour du Christ, mais ils sont prêtres pour l'éternité, comme le Christ, parce qu'ils sont configurés au Christ. Et donc, ils ne sont pas liés au fait de donner les sacrements, mais ils sont personnellement, de par leur existence, configurés au Christ.
Alors, pourquoi, quand un prêtre est saint, on l'appelle saint curé, on l'appelle saint Jean-Marie Vianney et pas saint père Jean-Marie Vianney?
Bah, on dit saint curé d'Ars, voilà, donc parfois aussi, donc oui, c'est vrai que ce serait plus, ce serait plus juste.
Puisqu'ils sont configurés, comment t'as dit là ?
Prêtres pour l'éternité. Mais c'est vrai que au ciel, il y aura que le père du ciel, donc d'un coup, ce sera peut-être plus difficile de les appeler père aussi. Peut-être qu'il faudra trouver un autre nom. Alors ça, on va en voir un petit peu après pour la partie mariée. Oui, bah, le mariage n'est pas pareil. On n'est pas, alors, Saint Paul, on n'est pas marié pour l'éternité, même si moi, je suis sûre que le fait d'avoir été conjoint, ça laisse forcément une relation particulière entre les personnes. Donc voilà. Mais là, on est prêtre pour l'éternité. Voilà. Enfin, on est. Les prêtres sont prêtres pour l'éternité. Donc c'est au-delà de l'aspect strictement fonctionnel du sacerdoce. Il est doté, le prêtre est doté également d'une grâce nouvelle et particulière, ainsi que d'une aide particulière pour s'acquitter de ses tâches.
Il est diacre.
C'est pareil, il est diacre pour l'éternité. L'image du sceau qui est derrière le mot caractère, le sceau c'est au sens empreinte, hein, comme on fait un sceau indélébile, souligne cette idée d'imprégnation du Christ en profondeur. Le Christ a voulu partager avec ses apôtres non seulement des fonctions, mais son être même de consacré envoyé. C'est ce que manifeste le lavement des pieds, c'est ce qu'il a fait avec les apôtres en les disant, voilà, vous êtes consacrés, envoyés, quelque part. C'est très important, le jeudi saint, de lier la scène et le lavement des pieds, parce qu'il y a vraiment cette double vue. Tout ce qui dans l'Église est instrument du Christ n'est pleinement efficace qu'à la mesure de son union intime au Christ. Alors, en fait, c'est quand même vrai aussi pour les baptisés, hein. Donc voilà, mais c'est encore plus vrai pour les prêtres. Parce que la configuration sacramentelle des ministres de l'Église au Christ prêtre les associe à sa réalité médiatrice et donc à sa sainteté. Donc c'est leur être qui est marqué et pas seulement leur avoir en fait. Voilà, c'est pas juste dans les actes qu'ils posent, c'est vraiment dans leur être même. C'est toujours la même idée. Et ça ne veut pas dire que le prêtre a plus de sainteté que le laïc. Puisque en tant que baptisé, ce qui est saint, c'est juste être pour le Christ. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on a dit dans la hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire opaque, il n'y a pas plus pour les uns que pour les autres. À chaque fois, c'est tout le Christ qui est là, et donc la sainteté, elle est là où on est, enfin dans son état de vie ou dans sa façon d'être. Et il n'y a pas un saint qui est plus saint qu'un autre. Enfin, ça n'existe pas. C'est on est saint, on n'est pas saint, c'est tout. Voilà. Donc on peut être saint en devenir, mais c'est autre chose. En tout cas, il n'y a pas de comparaison dans la sainteté, puisqu'quand on est saint, on est saint. Voilà. Puisqu'on est attaché au Christ. Alors, saint Maxime le Confesseur, il dit le théandrisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait Dieu, homme, dans Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on fait un petit mix, on fait un petit mélange, et ce n'est pas une recette de cuisine entre Dieu et l'homme. C'est vraiment un nouveau mode d'être. Donc, le Christ a inauguré un nouveau mode d'être humano-divin. Qu'il les confère à certains, donc une manière particulière d'être configuré au Christ. Et ce n'est pas un trait qui se rajouterait au prêtre, c'est vraiment ça le saisit en entier, et donc ça le configure différemment. Et ce n'est pas mieux d'être prêtre ou d'être juste baptisé. Ce qui est mieux, c'est d'être saint. Voilà, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est assez... Moi, ce que j'ai découvert là en faisant ce cours, c'est que vraiment ce mode d'être qui est donné au prêtre... C'est vraiment une capacité à s'effacer, à faire de la place. En fait, on dit qu'on se laisse transformer par l'Eucharistie, par le Christ. Mais pour le prêtre, c'est encore plus vrai, quoi. Il doit complètement s'effacer pour être plus que le Christ, quoi. En tout cas, ça m'a fait réfléchir et c'est d'autant plus admirable d'être prêtre. Voilà, et on parle de dénuement de subsistance. C'est comme si leur subsistance, leur être même était annihilé. Donc le sacerdoce ministériel est donc le lieu d'une exigence admirable et terrible à la fois, l'exigence de la sainteté dans la configuration au Christ jusque dans les moments les plus décisifs de sa vie, notamment au soir de la scène, configuration par la donation totale de soi-même du Fils à Dieu le Père, afin de pouvoir donner Dieu dans l'Eucharistie aux hommes de la manière la moins indigne, la plus transparente et efficace possible. Et donc, c'est pas que l'Eucharistie, elle n'est pas valide quand le prêtre n'est pas saint, mais plus on a des prêtres saints, plus qui se vident d'eux-mêmes pour laisser tout la place au Christ, plus la transmission est heureuse, enfin, quelque part, et plus on peut la voir encore plus, quoi. C'est pas qu'on l'a pas sans, mais ça nous aide à la recevoir encore plus. Voilà, et du coup, le célibat est une imitation humble de Jésus-Christ lui-même, demeuré seul pour accomplir sa mission en toute liberté. Alors, petit zoom, donc, dans l'Église orientale, les prêtres, enfin, des hommes mariés peuvent devenir prêtres, pas seulement diacres, mais prêtres. Dans l'Église latine, seuls des hommes célibataires peuvent devenir prêtres, par contre, des hommes mariés peuvent devenir diacres. Mais une fois qu'on est diacre, prêtre ou évêque, on ne se marie plus.
Juste un diacre petit, ne se remarie pas.
Voilà, petit règle de parce que y a cette idée de configuration, donc c'est pas juste un truc en plus, quoi. C'est pas une fonction. C'est vrai que si c'était une fonction, comme les pasteurs protestants, oui, pourquoi ils se marieraient pas et pourquoi ils changeraient pas de ils pourraient très bien changer d'être.
C'est une configuration et non une fonction, c'est ça que tu as dit. Mmh.
Et donc, le prêtre est un sacrificateur, puisqu'il offre le sacrifice, la messe, mais il est aussi un sacrifié, étant tout entier au service de son peuple et mangé par son ministère. Ça, il nous dit beaucoup, Père Gitton. Donc, le prêtre est ministre du Christ, ministre de l'Église. C'est dans le lien étroit entre le... Alors, j'espère que vous avez vu un peu l'imbrication... Alors, je sais pas, on peut parler des heures sur l'imbrication entre le sacerdoce débaptisé et le sacerdoce ministériel. Donc là, j'ai à peine effleuré le sujet. Soyons clairs. Vous pouvez lire tout Lumen Gentium qui est là-dessus quasiment. Donc, ça, vous n'hésitez pas. En plus, c'est relativement lisible, donc il n'y a pas de problème.
L'année prochaine,
peut-être. Voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que vraiment, en fait, l'Église, elle est vraiment... elle fait l'œuvre de salut du Christ, ce qu'il a voulu, la sanctification du monde, si on a cette coopération réelle entre les baptisés et les prêtres. Alors, quand je dis prêtres, c'est évêques et diacres. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ensemble que l'un et l'autre. Chacun peut prier pour l'autre, chacun se reçoit de l'autre. Un prêtre sans troupeau ou un évêque sans troupeau, ça n'a pas de sens non plus. Donc, c'est aussi les baptisés qui font qu'il a sa mission et qu'il peut l'exercer. Et prier pour ses prêtres. Et inversement, les prêtres, ils prient aussi pour leur troupeau. Et donc, cette heureuse complémentarité, si elle est vécue de façon heureuse et vraiment correctement ordonnée, au sens où chacun ne prend pas la place de l'autre, mais chacun... fait ce qu'il a à faire là où il est, vers plus de sainteté, et ben ça produit ça aidera l'Église à faire l'œuvre de sanctification du monde. Voilà. Chacun peut se nourrir de l'autre, chacun porte l'autre par la prière et par le service en disciple du Christ. Voilà. Configuré à notre place, qui est différente, mais configuré au Christ de toute façon. Et puis après, un dernier petit paragraphe sur le fait que j'aime beaucoup la dimension toujours eschatologique, donc les fins dernières. La succession apostolique est l'institution qui maintient dans l'Église l'ouverture eschatologique que Jésus a voulu lui donner. Donc loin de remplacer l'attente de son retour, on ne meuble pas en attendant son retour. Et donc comme ça on vit notre petite vie, tout va bien. Pas du tout. En fait, ce que font les prêtres dans les sacrements, mais c'est tout ce qu'on a vu cette année, hein, c'est les sacrements, mais c'est toute l'Église, qui maintient vive la trace et finalement cette espérance et ce désir du retour du Christ. Voilà. Et donc, si on veut que nos vies et notre monde s'organisent non pas sans le Christ, mais avec le Christ, eh ben, les diacres, les prêtres et les évêques sont dépêchés là pour nous les manifester, nous le rendre présent concrètement dans les sacrements et notamment à l'Eucharistie, mais aussi nous entraîner par l'enseignement, par l'exemplarité, par la visibilité de ce corps ecclésial vers le retour du Christ, vers le Christ. Voilà. Et le fait qu'il y ait une dimension sociale de l'Église, et donc visible, c'est aussi ce que le Christ a fait. Il n'a pas juste dit individuellement, vous, c'est les 12, vous avez ça à faire. Non, pas du tout. Il les a institués. Donc il y a un côté visible, il y a un côté socialement reconnaissable. Et Pierre, quand il dit, il faut qu'on nomme un 12e pour remplacer Judas, Il est conscient de cette, que c'est déjà une forme d'un organisme social. Il y a aussi cette dimension-là. Parce que dans le monde, forcément, si on veut que ça agisse, il faut qu'il y ait ça. Et en même temps, c'est surnaturel. Voilà. Et dans cette dimension surnaturelle, il y a cette blessure, en fait, cette faille, en fait, qui. Voilà, et le prêtre est celui qui maintient béante la brèche ouverte par le Christ. Voilà, le côté ouvert du Christ sur la croix, par la lance, eh ben, il y a quelque chose de cette eau et ce sang qui sont perpétuellement là, et le prêtre, il maintient béante cette brèche. Le Christ sur la croix, il a eu le côté transpercé avec l'eau et le sang, et donc comme si ça continue à jaillir. Et quelque part, le prêtre, l'eau et le sang, c'est le baptême et puis l'Eucharistie, il garde cette brèche ouverte. Voilà. Et il ne faut pas se dire, on ne cicatrise pas cette brèche, parce qu'il faut qu'elle reste, ce désir, ce manque de Dieu, il reste. Enfin, il faut le garder ouvert, quoi. Voilà, exactement. Et c'est le rôle de l'Église, et éminemment dans l'Église, les prêtres. Mais les prêtres tout seuls, sans les baptiser, ils ne feront rien. Donc, c'est tous ensemble qu'on peut garder ça. Et du coup, il faut garder cette brèche ouverte, cette brèche de l'amour, mais qui est aussi cette brèche tournée vers le manque de Dieu, en fait. Voilà. Ce monde en manque de Dieu.
Est-ce que tu peux revenir sur le mot « institué »?